Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, de 20h à 21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat, s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Bonsoir, bonsoir à tous. C'est donc l'émission de la BIP, vous l'aviez deviné, à qui est-elle consacrée? Eh bien, à Georges Brassens. C'est la belle voix de Paco Ibáñez qui l'a fait entrer dans le studio. Et on va parler de ce poète un peu particulier, puisque lui-même ne se considérait pas comme poète. Il a...
Il a dit « J'ai tenté d'être un poète et après avoir lu Verlaine et Rimbaud, ça m'a calmé. » Mais néanmoins, nous, on le considère comme un poète, en tout cas comme un héritier de toute une tradition populaire qui va de Villon à, voilà, à Apollinaire. Enfin, d'ailleurs, il fait souvent référence à ces gens-là dans ses textes. Et on va le suivre au cours de 3 émissions, donc 2 qu'on va faire maintenant et une autre qui aura lieu à la rentrée et qui sont uniquement consacrées d'ailleurs à la jeunesse de Brassens ou à la jeunesse de Brassens, comme vous voudrez, puisque on s'est aperçu qu'il y avait énormément de choses à raconter sur sa vie et là, enfin, disons ses 30 premières années avant qu'il devienne la légende qu'on a connue. Voilà. Une petite rectification, pardon. Nous avons parmi nous Jean-Claude César qui n'est jamais cité dans l'indicatif de cette émission. Pour faute de temps, il va nous falloir refaire notre indicatif un de ces jours. Qu'il nous pardonne. Donc, on va parler de ce Brassens, et voilà, évidemment, c'est notre région, mais on va parler de l'enfance de Brassens. Brassens, c'est le... Ah oui, je dois aussi excuser un autre absent, qui est notre ami Yves, qu'on salue et qui est souffrant et qui ne peut pas être avec nous. On le salue bien. Donc, ces interventions pertinentes vont me manquer. Je vais essayer de bien mener la chose. Donc, Brassens naît à 7, tout le monde le sait, mais il naît d'une famille très, très modeste. En fait, sa mère est une Italienne immigrée à 7. 7, à l'époque, c'est un peu la capitale méditerranéenne de l'Italie, on pourrait dire. Il y a une très grande colonie italienne. Et la mère de Brassens est une jeune veuve. Elle a déjà une fille de 7 ans. Quand elle rencontre le père de Brassens, quoi. Elle a une fille qui s'appelle Simone et qui va jouer d'ailleurs un rôle important dans la vie de Brassens puisqu'elle va être un petit peu la grande sœur qui va le chérir avec sa mère, évidemment. Donc la mère vient d'Italie, elle est venue avec ses parents, d'ailleurs les grands-parents habitent aussi à Sète, et le père de Brassens, Jean-Louis, lui, est un maçon qui est venu, enfin qui est d'une famille de Castelnaudary, qui est venu se rapprocher par manque de travail de Sète. Voilà. Et donc c'est dans ce milieu assez pauvre, très modeste, que naît le petit Georges en 1921, je crois, le 22 octobre exactement. Et donc il faut se dire que c'est justement la trace de la guerre est très présente, hein, puisqu'elle a marqué la famille, le beau-père étant mort à la guerre. Oui, j'ai dit que sa mère était une veuve, mais une veuve de guerre, quoi. C'est le père de Simone est mort à la guerre. Et il va grandir dans cette maison, d'ailleurs on peut la voir à 7, elle est dans une rue qui s'appelle maintenant rue Georges Brassens, hein, qui est dans le haut de la vieille ville, une maison qui est une sorte de maison communautaire. Il y a là les grands-parents du côté du père, les grands-parents du côté de la mère, et puis au dernier étage il y a la famille de Georges, quoi. Et alors ce petit gamin est complètement bercé par la chanson, quoi. Et il le dit, à 5 ans, je connaissais 200 chansons par cœur parce que tout le monde chante à la maison. Tout le monde chante. La mère chante évidemment des chansons italiennes, napolitaines. La sœur écoute tous les succès de l'époque, les Henri Gara, les Jean Sablon, les Pilsetabé, Damia, Fréhel, puis un petit peu plus tard Mireille et Jean Nohain. En tout cas, il faut savoir que la jeunesse de Brassens s'est bercée par ça, non seulement à la maison, puisqu'on écoute aussi la TSF, à l'époque il n'y a qu'un seul poste, mais aussi dans la rue, puisque quand les enfants partent à l'école, par les fenêtres se déversent les radios qui les unes après les autres prennent la même chanson. Donc ça c'est une chose très très importante, que cette espèce de biberonnage dans la chanson française, mais pas que française, d'ailleurs dans le bel canto italien aussi. Donc on chante, et d'ailleurs il le dit dans d'autres témoignages, il dit « je n'ai pas eu de plus grandes émotions dans ma vie que celles qui m'ont été données par la musique ». Bon, il en a eu d'autres avec les humains et les humaines aussi, mais enfin il place ça très très haut, voilà. Et donc ce petit garçon n'est pas un très bon élève, il est plutôt rêveur, il a plutôt la tête ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un des drames, c'est qu'il demande à suivre des cours de musique, mais on lui refuse parce qu'il n'est pas assez bon élève, quoi. Donc il n'apprendra jamais la musique à l'école, enfin du moins dans une école de musique. Et puis il y a peut-être autre chose qui est important aussi dans cette jeunesse pour la formation de l'esprit de Brassens, c'est l'opposition, enfin disons l'opposition bien gérée, la cohabitation entre une mère extrêmement catholique et pratiquante et un père qui lui est un libre penseur total, quoi. Et qui dit, alors évidemment, le petit Brassens va au catéchisme, sur les exigences de sa mère, Et quant à la suite, le père, qui est plutôt quelqu'un d'assez placide, dit « Eh bien, le petit fera ce qu'il voudra, il verra bien plus tard. » Donc voilà, on a affaire à... on est dans... Et Brassens, toute sa vie d'ailleurs, sera... Enfin, il a une éducation chrétienne et il en connaît un rayon là-dessus. C'est-à-dire que lui qui passe pour le mécréant, enfin la palme de l'athée mécréant, en fait, connaît les textes de la Bible. Il étonne tous ses interlocuteurs catholiques ou chrétiens en général par une connaissance incroyable des textes. D'ailleurs, ça se retrouve dans ses chansons. Voilà. Peut-être on en a dit assez sur l'enfance de Georges Brassens, et peut-être simplement évoquer à travers un texte de lui la guerre.
À voir le succès que se taille le moindre récit de bataille, on pourrait en déduire que les braves gens sont belliqueux. La guerre, c'est sûr, l'affaire, c'est dur. Qu'aucun ne sort. Mais quelle belle fête lorsqu'elle est faite et qu'on s'en sort. C'est un sacré frisson que donne au ciné le canon qui tonne. Il était sans nul doute d'un autre genre autour de Verdun. Bien qu'on n'ait pas la tête épique, au pays de France, on se pique d'art martial. On se repaît de stratégie en temps de paix. Allons, enfants de la patrie! À tue-tête, on le chante et crie. Qu'on nous dise « Faut y aller !» On est dans nos petits souliers. C'est beau les marches militaires, ça nous fait battre les artères. On semble un peu moins fanfaron sitôt qu'on approche du front. Les uniformes et les bottes, les tuniques et les capotes, c'est à la mode. On les enfile très volontiers dans le civil. À voir le succès que se taille le moindre récit de bataille, on pourrait en déduire que les braves gens sont belliqueux.
J'ai tout oublié des campagnes d'Austerlitz, de Waterloo, d'Italie, de Prusse et d'Espagne, de Pontoise et de Landerneau. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras. La première étrangère à qui l'on a dit « Tu, mon cœur, t'en souviens-tu ?» Comme elle nous était chère. Qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle, on s'en souviendra. De la première fille qu'on a prise dans ses bras. Ils sont partis à tire-d'aile mes souvenirs de la Suzon, et ma mémoire est infidèle à Julie, Rosette ou Lison. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras. C'était une bonne affaire, mon cœur, t'en souviens-tu? J'ai changé ma vertu contre une prime vert. Que ce soit en grande pompe comme les gens bien, ou bien dans la rue comme les pauvres et les chiens, on se souvient d'elle, on s'en souviendra de la première fille qu'on a prise dans ses bras. Toi qui m'as donné le baptême d'amour et de septième ciel, moi je te garde et moi je t'aime, dernier cadeau du Père Noël. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras. On a beau faire le brave, quand elle s'est mise nue, mon cœur, t'en souviens-tu, on n'en menait pas large. Bien d'autres, sans doute, depuis sont venus. Oui, mais entre toutes celles qu'on a connues, elle est la dernière que l'on oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras.
Grand-père suivait en chantant la route qui mène à 100 ans. La mort lui fit au coin d'un bois le coup du père François. L'avait donné de son vivant tant de bonheur à ses enfants qu'on fit, pour lui en savoir gré, tout pour l'enterrer. Et l'on courut à toutes jambes quérir une bière. Mais, comme on était léger d'argent, le marchand nous reçut à bras fermés. Chez l'épicier, pas d'argent, pas d'épices. Chez la belle Suzon, pas d'argent, pas de cuisses. Les morts de basse condition, c'est pas de ma juridiction. Or, j'avais hérité grand-père une paire de bottes pointues. S'il y a des coups de pied quelque part qui se perdent, celui-là touche à son but. C'est depuis ce temps-là que le bon apôtre, oh, c'est pas joli, c'est pas poli, a une fesse qui dit merde à l'autre. Bon papa, ne t'en fais pas. Nous en viendrons à bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond. Le mieux à faire, et le plus court, pour que l'enterrement suivît son cours, fut de borner nos prétentions à une bière d'occasion. Contre un pot de miel, on acquit les quatre planches d'un mort qui rêvait d'offrir quelque douceur à une âme sœur. Et l'on courut à toutes jambes quérir un corbillard. Mais comme on était léger d'argent, le marchand nous reçut à bras fermés.
Chez l'épicier, pas d'argent, pas d'épices. Chez la belle Suzon, pas d'argent, pas de cuisses. Les morts de basse condition, c'est pas de ma juridiction.
Ma botte partit, mais je me refuse de dire vers quel endroit ça rendrait les dames confuses, et je n'en ai pas le droit. C'est depuis ce temps-là que le bon apôtre, c'est pas joli, c'est pas poli, a une fesse qui dit merde à l'autre. Bon papa, ne t'en fais pas, nous en viendrons à bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond. Le mieux à faire et le plus court fut que l'enterrement suivit son cours. Il fut de porter sur notre dos le funèbre fardeau. S'il eût pu revivre un instant, grand-père aurait été content d'aller à sa dernière demeure comme un empereur. Et on courut à toutes jambes quérir un goupillon. Mais comme on était léger d'argent, le marchand nous reçut à bras fermés.
« Chez l'épicier, ta-da-la-la-la-la, bénédiction !»
Avant même que le vicaire ait pu lâcher un cri, je lui bottais le cul au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est depuis ce temps-là que le bon apôtre a une ferse qui dit merde à l'autre. « Bon papa, ne t'en fais pas, on en viendra à bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond. »
Cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chantait Love in Bloom, au rythme de ce boum, qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier, et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues, sur la mer le soleil va paraître. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou, 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger que l'oiseau qu'une abeille. Et s'il dit boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. On n'entend que boum, boum, ça fait toujours boum.
Boum était chanté par Georges Brassens, c'était bien l'illustration de sa grande passion pour la chanson d'avant-guerre. Tout ça, c'est dans un coffret bien connu qu'il a fait, je crois, pour l'opération Personnage en soutien à son ami Lino Ventura, dans lequel il a enregistré toutes les chansons de sa jeunesse. On était donc à l'école avec le petit Georges, qui va bientôt aller au collège, qui ne s'appelle pas encore Paul Valéry d'ailleurs, où d'ailleurs un jour, je crois, Paul Valéry lui-même viendra lui remettre un prix, parce que quand même, il n'est pas très bon dans tout, mais en mathématiques, il est très fort. Et oui, c'est très étonnant. La littérature, ça ne l'intéresse pas du tout encore à l'époque. Il s'intéresse beaucoup plus aux plages et avec ce qui attire beaucoup de garçons sur les plages, c'est-à-dire les filles aussi, hein, évidemment. Et voilà, c'est une vie très, très heureuse, très insouciante qui se passe entre plages, bagarres entre garçons aussi, quelques cours qu'on juge plutôt ennuyeux, rasoirs, et c'est dans cette ambiance-là que grandit le petit Georges. Mais petit à petit, il va quand même être, peut-être il faut signaler l'importance dès l'enfance, hein, la présence de la mort dans la vie de Georges Brassens, qui n'a rien d'exceptionnel à l'époque, parce qu'à l'époque on ne mourait pas majoritairement à l'hôpital comme aujourd'hui, mais on mourait chez soi. Et donc il va voir, il y a des personnages qu'il va voir disparaître. Chaque enfant voit disparaître un grand-parent au moins. Et en parlant de grands-parents, puisqu'on a parlé de grand-père un petit peu avant, puisque Claude nous en a parlé, il y a un personnage personnage aussi qui est très marquant dans la vie de Brassens, c'est son grand-père, parce qu'il a un grand-père dont la spécialité est de dire non. Voilà, ce grand-père n'est jamais de l'avis de personne. Autant le père, lui, dit plutôt bon, bon, ah bon, oui, bon. Autant le grand-père lui dit non, non, c'est non. Et la seule fois d'ailleurs où il ne peut pas mettre en pratique sa nonite, on va dire, c'est le jour où c'est toujours son mariage, vous l'avez oublié de le dire probablement, mais c'est aussi quand la tour Eiffel est construite à Paris à l'occasion, enfin c'est une histoire qu'on raconte au petit Georges, parce que évidemment lui il est pas né en 1900, mais au moment de l'exposition universelle, le grand-père, alors que tout le monde se bat les uns disant que c'est un espèce de, une sorte de suppositoire métallique, enfin et d'autres disant que c'est la grande dernière trouvaille du modernisme, on se tourne un moment vers le grand-père, alors le grand-père, et le grand-père dit à ce moment-là qu'il est coincé, quoi. Il peut être ni du côté des oui ni du côté des non, il dit « Cette tour, elle est parfaite, mais on ne l'a pas mise au bon endroit. » Voilà, ça c'est une histoire qui est restée très forte, puisque d'ailleurs Brassens en fait même allusion, fait allusion à des tas de petites anecdotes comme ça, dans ce qui a été le début de son écriture, c'est-à-dire des petits poèmes, mais aussi surtout dans la Tour des Miracles. Voilà, on va tout simplement lui laisser la parole avec un poème de jeunesse, parce qu'on va le voir un peu plus tard, il s'intéresse déjà à écrire. Donc le petit ramoneur d'ailleurs qui fait référence à une expérience vécue de Brassens, puisque son père, quand il a 14 ans, essaye de le mettre au boulot de maçon, ça marche pas du tout, et il l'envoie une fois comme ramoneur, et ça marche encore moins.
Toto était un petit ramoneur, un ramoneur de cheminée. Pour lui, c'était un déshonneur d'avoir la tête enfarinée. Quand il voyait le boulanger, tout blanc sur sa blanche voiture, cela le faisait enrager. Lui, le héros de la toiture. Car enfin, quel est le danger? Quel est le danger que présente cette vile profession? Entre nous, mes amis, n'est-elle pas exempte de soucis, de sensations? Oui, mon petit, oui, mais l'odeur de la farine qui vient chatouiller les narines de celui qui pétrit le pain, elle n'est pas aussi subtile que le fumet d'un rôti de lapin ou de volatile. Odeur de pauvre et de rupin, odeur de joie et de tristesse, de grandeur et de petitesse. Sent-il tout cela, votre pain? D'accord, jeune Toto, mais tes habits sont sales. Vois ceux du boulanger, ils sont immaculés. Immaculés, taisez-vous, tête pâle. Ah, vous me faites rigoler. Oui, c'est vrai, j'ai du noir sur le dos, sur les hanches, sur le nez. Mais mon âme est blanche, et quand mes vieux vêtements, le dimanche matin, j'essuie la suie, je suis plus propre et plus charmant que votre sac de farine.
Les chapardeurs de crânes terreux. Les enfants qui chapardent des crânes terreux dans le charnier des cimetières de province ne pourront plus jamais dire qu'on les évince du langage des dieux. Bien loin d'agir à la légère, comme affirment les faux témoins, les effrontés folliculaires, ils apportent beaucoup de soin à la mise au point de l'affaire, les enfants qui chapardent des crânes terreux. Se plonger dans le trou pullulant d'araignées n'en déplaise aux crâneurs, c'est assez dangereux, et plus qu'on ne suppose. Ils ont l'âme soignée, les enfants qui chapardent des crânes terreux. En voulez-vous des têtes de mort? Une, deux, trois, quatre, dix, vingt, cent, bien faites ou mal faites. Nom d'une pipe, en voulez-vous des têtes? Les enfants qui chapardent des crânes terreux dans le charnier des cimetières de province connaissent la fontaine isolée où l'on rince les macabres larcins à l'abri des curieux. Voici les filles, à qui par cent détours on révèle les arcanes de l'ossuaire, à qui l'on offre des petits bouts de suaire, en gage d'immortel amour, à qui l'on murmure « je t'aime » en effeuillant le chrysanthème. Et voilà les capitulars. On les houspille, au large, au large, au large, éloignez-vous, peureux. Les enfants qui chapardent des crânes terreux ne les échangent pas contre des sacs de billes. Le temps passe, l'enfance meurt dans la mansarde, au cœur d'un bric-à-brac attachant et affreux trône le dieu déchu, le vieux crâne terreux, qui s'escrime à serrer les dents sur sa bouffarde.
Le petit joueur de flûteau menait la musique au château. Pour la grâce de ses chansons, le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note. Avec un blason à la clé, mon lacet se mettrait à gonfler. On dirait par tout le pays, le joueur de flûte a trahi. Et mon pauvre petit clocher me semblerait trop bas perché. Je ne plierai plus les genoux devant le bon Dieu de chez nous. Il faudrait à ma grande âme tous les saints de Notre-Dame. Avec un évêque à la clé, mon lacet se mettrait à gonfler. On dirait par tout le pays, le joueur de flûte a trahi. Et la chambre où j'ai vu le jour me serait un triste séjour. Je quitterais mon lit mesquin pour une couche à baldaquin. Je changerais ma chaumière pour une gentille homière. Avec un manoir à la clé, mon lacet se mettrait à gonfler. On dirait par tout le pays, le joueur de flûte a trahi. Je serais honteux de mon sang, des aïeux de qui je descends. On me verrait bouder dessus la branche dont je suis issu. Je voudrais un magnifique arbre généalogique. Avec du sang bleu à la clé, mon lacet se mettrait à gonfler. On dirait par tout le pays, le joueur de flûte a trahi. Je ne voudrais plus épouser ma promise, ma fiancée. Je ne donnerais pas mon nom à une quelconque ninon. Il me faudrait pour compagne la fille d'un grand d'Espagne. Avec une princesse à la clé, mon lacet se mettrait à gonfler. On dirait par tout le pays, le joueur de flûte a trahi. Le petit joueur de flûteau fit la révérence au château. Sans armoirie, sans parchemin, sans gloire, il se mit en chemin vers son clocher, sa chaumine, ses parents et sa promise. Nul ne dise dans le pays, le joueur de flûte a trahi, et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien.
Voilà, vous avez peut-être reconnu Les Amoureux des Bancs Publics joués par Jean-Louis Racinfos et le trio Igloo. Voilà, comme vous en êtes aperçu aussi dans cette émission, Brassens ne chantera qu'autre chose que Brassens, c'est-à-dire les poètes qu'il a chantés, ou comme tout à l'heure le Charles Trenet qui a été l'idole de sa jeunesse. Et pour le reste, eh bien, on a essayé de restituer les textes dans leur nudité, mais aussi dans ce qui nous paraît être très beau, très élégant chez lui, ou parfois avec d'autres versions un peu plus insolites. Voilà. Donc, Brassens grandit, ça devient Un peu de poil lui pousse au menton. Hein, et il va y avoir donc là une période dans laquelle, alors de plus en plus attiré par le jazz, le swing, il essaye d'ailleurs de monter un groupe avec quelques copains. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il joue. Je crois qu'il joue de la batterie ou du banjo dans l'affaire. Il n'a encore jamais touché à une guitare ni à un piano. De temps en temps, il lui arrive d'aller à Paris en vacances chez sa tante où il y a un piano, ce qui est quelque chose d'extraordinaire pour lui. Mais bon, comme je l'ai dit, trop mauvais élève, donc pas d'école de musique tant qu'il ne sera pas meilleur élève. Et bon, il a déjà quand même un certain goût pour la poésie qui lui arrive dans les petites classes du collège avec un professeur quand il découvre les fables de La Fontaine, qui resteront toute sa vie un modèle de concision, d'élégance, etc. Mais va se produire une rencontre fondamental encore dans sa vie. Donc évidemment, il fréquente beaucoup les plages, mais un jour arrive dans leur école, où tous les profs ont d'école à mi-donnée, une espèce de champion de boxe, un type qui mesure 1m80, qui a un nez cassé, qui effectivement d'ailleurs est un ancien champion universitaire de boxe et qui est leur nouveau professeur de français et qui s'appelle Alphonse Bonafé. Quoi. Et ce professeur, alors déjà, rien que par sa dégaine, tranche terriblement sur tous les autres, mais en plus, il arrive avec un pull à col roulé, des chemises à carreaux, ce qui ne se fait absolument pas, et il s'assoit une fesse sur le bureau en disant « Maintenant, fermez vos livres. Est-ce que vous connaissez la poésie? Qu'est-ce que vous connaissez en poésie ?» Alors, il commence à citer La Fontaine, machin. Il dit « Écoutez, de Villon à Baudelaire, vous pouvez considérer que tout ça n'est pas très intéressant. Fermez vos cahiers, je vais vous faire écouter de la poésie. » Et Alphonse Bonafé, cette espèce de colosse, commence à dire des textes, et pris d'ailleurs par sa propre émotion, la larme à l'œil, dit des textes de Baudelaire, de Rimbaud, amène un jour en classe un phonographe sur lequel il fait écouter un texte de Baudelaire sur une mélodie de Duparc, et là, il est complètement bouleversé. Et là, alors pour ces petits minots, un petit peu, qui roulent leur caisse sur la plage, de voir ce type qui à la fois est une image... qui leur en impose par sa stature, et de voir que ce type est profondément ému par ça, ben eux aussi ça les touche, en tout cas ça touche beaucoup Brassens, et là Brassens va commencer à s'intéresser beaucoup beaucoup à la poésie. Alors c'est dans le même temps, donc c'est dans cette j'ai oublié de dire peut-être qu'il y avait une bonne fée qui protégeait le petit Brassens de ses mauvaises notes, c'était la sœur Simone qui de temps en temps signait les bulletins quand ils étaient trop mauvais pour éviter les raclées à Georges. Mais bon, petit à petit, il s'émancipe de ce jugement et il va commencer à... il y a un épisode là, je ne vais pas vous le raconter puisque je suis allé interroger Régine Monpeyi à 7, Régine Monpeyi qui est la directrice de l'espace Georges Brassens et qui en connaît un rayon sur l'affaire et qui va nous raconter un petit événement qui va aussi bouleverser la vie de Brassens.
Georges Brassens va connaître quelques problèmes qui pourraient peut-être sourire actuellement, mais qui à l'époque ont été, dans le Landerneau-Sétois, quelque chose d'assez important. Donc il y avait une bande de jeunes qui, tout simplement parce qu'il fallait séduire quelques jeunes filles, en même temps leur payer... À l'époque, c'était la limonade. Et c'est, je crois que c'est là où il y a eu... Certains ont pensé que s'ils avaient de l'argent, ce serait sympathique.
Ce serait mieux.
Voilà, ce serait mieux. Mais le problème, pratique. Comment avoir de l'argent lorsqu'on est étudiant ou lorsqu'on est collégien et quand on travaille, point. Alors, est venue à l'idée, de suite, l'idée du vol. Du vol. Alors, le vol, pas un vol important. Au départ, c'était simplement voler dans la famille, c'est-à-dire voler quelques bagues, quelques bijoux. Voilà, toute sécurité, surtout qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On ne fermait pas ni les fenêtres, ni les portes. Et on pouvait rentrer facilement chez une sœur, chez une grand-mère, chez une tante. Et quelques bijoux ont fait l'affaire. Mais ces bijoux, qu'est-ce qu'on pouvait en faire donc? Il y avait une bijouterie située au centre-ville qui est tenue par deux demoiselles bien pensantes et bien pratiquantes qui ont accepté ces bijoux et ont donné quelques billets à ces jeunes. Bien sûr, ils y prennent goût. Et ensuite, les bijoux, on va voler chez quelques commerçants, mais toujours dans un même secteur, centre-ville. Et Georges là-dedans. Et là, que fait Georges? Alors Georges, lui, il n'a pas tellement envie de voler, c'est pas dans sa nature, hein, loin de là. Mais on lui fait comprendre que quand même, il pourrait faire quelque chose. Alors il va emprunter une bague à sa sœur. Donc c'est carrément Simone qui va faire les frais carrément de cette aventure. Et il va prendre une bague. Là. Il vole la bague et il va ensuite la donner à ses jeunes. Mais moi, ça se dit, je l'emprunte, hein, je vais pas voler. Et à force de toujours avoir les mêmes vols au même lieu, et en même temps, les mêmes receleurs, c'est-à-dire qu'il y a quelques dames qui, passant devant la bijouterie, se disent « mais ça ressemble énormément à mon tour de cou, ça, c'est ma bague, c'est mon bracelet ». Et oui, c'est bien là. Et donc, ben, les jeunes sont arrêtés, surtout qu'une des deux demoiselles prend peur parce que les jeunes se font un peu plus « violents », entre guillemets, veulent un peu plus d'argent et disent « il nous faut telle somme à telle heure ». Et les demoiselles, commençant à comprendre que là, elles sont parties dans une situation un peu difficile, eh bien, elles vont simplement à la police dire ce qui se passe. Les jeunes sont arrêtés. Brassens également.
Et donc, ils sont arrêtés au lycée.
Certains sont arrêtés sur les bancs du collège, ce qui est quelque chose d'abominable pour ces jeunes. Hein. D'autres sont arrêtés chez eux, en d'autres lieux. Ils vont être bien sûr conduits au commissariat. Ils vont parler, ce sont des jeunes, c'est vite fait. Hein. Ils vont dire tout ce qu'ils ont fait. Et puis, un procès suivra. Un procès quand même qui sera dramatique pour certains, hein. Certains ont des situations qui vont s'arrêter, les étudiants, certains en médecine va s'y terminer, certains vont à la maison de correction, et puis pour Brassens, cela donnera la chanson « Les quatre bacheliers ».
Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet essoine? Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme Lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Prince Nanquéré de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
Un 22 de septembre, au diable, vous partîtes, et depuis, chaque année, à la date sudite, je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous. Or, nous y revoilà, mais je reste de pierre, plus une seule larme à me mettre aux paupières. Le 22 de septembre, aujourd'hui, je m'en fous. On ne reverra plus, au temps des feuilles mortes, cette âme en peine qui me ressemble et qui porte le deuil de chaque feuille en souvenir de vous. Que le brave Prévert et ses escargots veuillent bien se passer de moi pour enterrer des feuilles. Le 22 de septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Jadis, ouvrant mes bras comme une paire d'ailes, je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle et me romper les os en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne. L'hirondelle, en partant, ne fera plus l'automne. Le 22 de septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Pieusement noué d'un bout de vos dentelles, j'avais sur ma fenêtre un bouquet d'immortelles que j'arrosais de pleurs en souvenir de vous. Je m'en vais les offrir au premier mort qui passe. Les regrets éternels à présent me dépassent. Le 22 de septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Désormais, le petit bout de cœur qui me reste ne traversera plus l'équinoxe funeste, en battant la breloque en souvenir de vous. Il a craché sa flamme et ses cendres s'éteignent. À peine y pourrait-on rôtir 4 châtaignes. Le 22 de septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Et c'est triste de n'être plus triste sans vous.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues, dans ma gueule de bois, j'ai tourné 7 fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre sobre. On compte que j'eus la tétée au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, ô noblesse sans pareil, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire ou deux, mais en forme de bonbonne, au ventre replet rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert Tantale quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste, mais faut bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine, les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Les croquants vont en ville, à cheval sur leurs sous, acheter des pucelles aux saints de bonnes gens. Les croquants leur mettent à prix d'argent les mains dessus, la main dessous. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison, que les culs cousus d'or se fassent une raison. C'est pour la bouche du premier venu qui a les yeux tendres et les mains nues. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne, qu'une fille, une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Les filles de bonne mœurs, les filles de bonne vie, qui ont vendu leurs fleurettes à la foire à l'encan, vont se vautrer dans la couche des croquants, quand les croquants en ont envie. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison, que les culs cousus d'or se fassent une raison, n'a jamais accordé ses faveurs à contre-sous, à contre-cœur. Les filles de bonne vie ont leur cœur consistant, et la fleur qu'on y trouve est garantie longtemps, comme les fleurs en papier des chapeaux, les fleurs en pierre des tombeaux. Mais le cœur de Lisa, le grand cœur de Lison, aime faire peau neuve avec chaque saison. Jamais deux fois la même couleur, jamais deux fois la même fleur. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne, qu'une fille, une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues.
Olivier Roman Garcia interprétait une version très originale de « Je me suis fait tout petit » devant une poupée. On a laissé Georges Brassens, donc après ce mauvais coup dans lequel il est trempé, hein, puisqu'il a une condamnation avec sursis à Montpellier. Et alors évidemment, bon, comme le disait Régine Montpellier, c'est l'infamie, quoi. Donc à cette époque-là, dans le petit set bien pensant, la famille veut essayer d'éviter le scandale. On doit signaler quand même, vous savez que cette chanson « Les quatre bacheliers » fait référence à cet épisode. Nous étions quatre bacheliers, enfin, pour offrir aux filles des fleurs, nous nous fîmes un peu voleurs. Mais cette chanson, Brassens ne la chantera qu'après la mort de son père. Quoi. Il y a un épisode qui le frappe beaucoup, c'est que, contrairement aux autres parents qui viennent en faisant un sermon et en tabassant leur gamin, le père de Brassens, lui, ne dit rien. Quoi. Et ça le marque profondément. Donc la famille trouve comme solution pour faire un peu se tasser l'affaire, d'envoyer Georges chez sa tante à Paris. Et puisque la tante, c'est-à-dire la sœur de sa mère, tient une petite pension à Paris, et donc on envoie Georges là-bas. C'est donc en 38, il va arriver, il va essayer de trouver des petits boulots. Enfin, la tante lui fait bien la leçon, lui disant t'es ici, mais enfin t'es pas à l'hôtel, hein, il faut que tu gagnes ta vie. Donc Brassens, d'une certaine manière, Conella quitte sa bande de copains. On n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps de parler, mais il y a toute une bande de copains qui va le suivre toute sa vie. Il y a Henri Delpont, il y a Victor Laville, il y a Loulou Bestiou qui était un peu le meneur de bande. Il y a aussi Henri Delpont qui, enfin, parmi eux, de certains deviendront des grands patrons de presse, Paris Match, etc. Mais et même les plus humbles, comme Émile Miramon, qui sera nommé plus tard Corne d'Europe dans la bande, et qui restera un personnage d'ailleurs à travers les chansons et même les romans de Brassens, il va les quitter pour commencer à découvrir Paris. Mais Paris, pour lui, c'est essentiellement les livres, les bibliothèques, parce qu'il dévore. Brassens a un appétit dévorant de culture. En fait, la graine qu'a semée Alphonse Bonnaffé dans cet esprit adolescent va germer profondément. Alors, et en plus, il y a le piano. Alors là, c'est extraordinaire. Et puis, il va faire une connaissance qui va marquer aussi la suite des choses. C'est qu'il y a une couturière qui vient régulièrement faire des travaux chez sa tante, puisque la tante a sa pension rue d'Alésia. Il y a une couturière qui s'appelle Jeanne Le Bonniec, qui habite un tout petit peu plus loin, dans une petite impasse, l'impasse Florimont. Et il y a peut-être une sorte de coup de foudre entre cette femme qui a quand même 30 ans de plus que lui et le jeune Brassens, quoi. Parce que cette femme, elle a senti qu'il y a un poète qui naît là, et elle l'encourage à écrire, quoi. Il lui montre ses petits bouts de poèmes, etc. Et elle l'encourage énormément, alors que bon, la tante, elle est très très loin de tout ça. Bon. Brassens va commencer, alors, sous la pression un peu de la tante, à travailler. Il trouve même une place, il est embauché chez Renaud Billancourt. On ne le sait pas assez, mais c'est assez drôle. Il y a même dans les archives, on retrouve une carte d'embauche de Georges Brassens aux ateliers d'Ile Seguin. Mais c'est une prestation qui va être très brève. Je crois même que, il me semble, je ne sais plus lequel de ses copains c'est toi, si c'est Loulou ou Henri Delpont le rejoint pour travailler. Je crois que c'est Loulou qui le rejoint pour travailler chez Renault. Et puis la guerre éclate. Voilà, la guerre éclate et les usines Renault sont bombardées, mises hors d'état de produire. Et là va se commencer une sorte de valse hésitation. Brassens va revenir au moment de l'exode à Sète en prenant des trains de marchandises avec ses copains. Et puis finalement, il va revenir à Paris parce qu'il étouffe un petit peu à Sète, quoi. Il sent déjà que Sète est trop petit, il a besoin. Il fait référence à ça dans un très beau texte qui s'appelle Les Ricochets, qu'on lira peut-être dans une autre émission, où il raconte la fascination aussi pour cette ville de culture. Il le dit dans un poème de jeunesse qui est écrit en 42. Il dit je n'aurai sans doute plus rien en tête que ces bêtes, Sète, plage, alcool, fillette, destin, crétin, sourire. Et dire que je n'en peux plus après de gros efforts. Lorsque vous m'aurez lu, vous vous direz que c'est la vie. Et si je ne suis pas normal, c'est que je n'en ai pas envie, car les normaux sont trop nombreux. Laissons-les se comprendre entre eux et partons par les grandes routes de ciel pur. Voilà. Il y a une grande attirance vers l'ailleurs, déjà très, très forte chez lui. Donc il va revenir à Paris, il va revenir chez Jeanne et. Il va revenir chez sa tante et ça fera l'objet de l'émission suivante. Il va être confronté avec la dureté de la guerre dans Paris occupé.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage. Car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest, avec des cris de putois, allumait ses feux d'artifice. Bondissant de sa couche, en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seul, j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Franklin, de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins, et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle, ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari, en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries, rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nues, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant lui parler de la pluie, lui parler du beau temps auquel on a tenu tête ensemble, lui conter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin de première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place qui viennent en rang comme des harengs voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse. Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines valas, si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui, d'un bouge, a fait un palace, avec ses appâts, du haut jusqu'en bas, bien en place. Ses trésors exquis, qui les embrasse, qui les enlace? Vraiment, c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on y fasse? L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli, mon gars, pas de gestes ou gare à la casse. Car sa main qui claque punit d'un flic-flac toutes les audaces. Certes, il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse, pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornes à ce gros dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
Voici la ronde des jurons, qui chantait clair, qui dansait rond quand les Gaulois de bon aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant à langue raccourcie. Comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morbleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouilles, ainsi parbleu que les jarnis bleus.
Et les palsans bleus.
Tous les cristis, les ventres saint gris, les parmabarbes.
Et les noms d'une pipe.
Ainsi pardit que les sapristis et les sacristis.
Sans oublier les jarnis cotons.
Les scrogneux et les bigres et les bougres, les saperlottes.
Les crénoms de nom.
Les pestes et pois diantres.
Fichtre et foutre.
Tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette.
Ainsi par Dieu que les jarnis dieux.
Et les pas que dieux. Quelle pitié. Les chartiers ont un langage châtié. Les harangères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu. Des profondis. Les joyeux jurons de jadis.
Voilà, ainsi se termine cette première émission sur Georges Brassens, consacrée à sa vie et ses œuvres, plutôt à sa jeunesse. On se retrouve pour la prochaine émission, donc dans 15 jours, c'est-à-dire je crois le 15 juin. Hein, toutes ces émissions sont évidemment rediffusées les samedis à 18h, tous les samedis qui suivent. Voilà, c'est l'émission de la BIP, avec aujourd'hui la participation de Jean-Claude César, de Didier Mailleux, de Claude Maurice, de Patrick Vendrin, et avec la préparation de notre camarade qu'on regrette bien et qu'on salue, Yves Flanck. Voilà, vous savez que la BIP œuvre aussi dans tous les terrains imaginables de loisirs, de travail, de repos, de paresse. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez envoyer des mails et à Clapas aussi bien que sur notre site www.michelarbatz.com.